Vous écoutez bien RFI, 2h en temps universel, 3h à Paris. Tout de suite le journal.
Mathis Limano.
L'escalade continue entre la Russie et l'Ukraine après l'utilisation inédite d'un missile balistique russe sur le sol ukrainien. Vladimir Poutine promet de continuer ses essais alors Kiev s'inquiète quant à ses capacités de défense et demande l'aide des alliés occidentaux. À suivre, reportage dans le cortège parisien contre les VSS, les violences sexuelles et sexistes envers les femmes. 100 000 personnes ont défilé dans toute la France ce samedi. Et puis en Iran, on envisage de déménager la capitale, Téhéran. Où ça et pour quelle raison ? Explication en fin d'édition.
I hereby invite the CMA to adopt the draft decision.
Voilà le coup de marteau de Mukhtar Barbaïev, président de la COP29 à Bakou. Coup de marteau qui vient sceller un accord après 2 semaines de négociations houleuses. Ce sont donc 300 milliards de dollars que recevront chaque année et jusqu'en 2035 les pays en développement, et ce pour faire face au changement climatique. Un accord qui, pour le chef de l'ONU, pose les fondations pour continuer à construire le début d'une nouvelle ère, salue l'Union européenne. Pas le même son de cloche du côté des pays concernés. Une illusion d'optique, une somme dérisoire pour la représentante indienne. Sentiment partagé par les représentants des pays les plus pauvres qui dénoncent un accord sans ambition. Un engagement trop faible et trop tardif, regrette le groupe africain. À 6h10, temps universel, Julien Coquel-Rohem reçoit Fanny Petitbon, responsable France de l'ONG 350.org. Invité exceptionnel pour revenir sur cet accord scellé à la COP29. On revient sur ses contours tout au long de RFI Matin. La guerre en Ukraine et cette rencontre la nuit dernière entre le secrétaire général de l'OTAN et le 47e président des États-Unis. Mark Rutte et Donald Trump ont discuté des problèmes de sécurité mondiale que rencontre l'Alliance Atlantique. Parallèlement, Kiev a lancé un nouvel appel à l'aide à ses alliés occidentaux. Il lui faut de nouvelles capacités de défense pour faire face aux nouveaux missiles utilisés par la Russie. Oriane Verdier.
Face aux nouveaux missiles russes, Kiev a aujourd'hui besoin de systèmes de défense anti-aérien de dernière génération. Le ministre ukrainien de la Défense serait déjà en discussion avec les alliés occidentaux, a affirmé le président ukrainien vendredi soir. La Russie dit avoir frappé jeudi la ville de Dnipro en Ukraine avec un nouveau missile balistique hypersonique. L'Ukraine est équipée de systèmes anti-aériens, notamment américains et franco-italiens, mais elle n'a pas suffisamment d'équipement pour protéger toutes les villes et surtout Moscou présente le missile Oreshnik comme impossible à intercepter. Le président russe a ordonné de produire cette arme en série en promettant de nouveaux tirs après ce qui était présenté comme un premier essai en réponse à l'utilisation par Kiev de missiles occidentaux sur le sol russe. Jeudi, Vladimir Poutine a fait porter la responsabilité de cette récente escalade sur les occidentaux qui ont donné le feu vert à l'utilisation de leur armement sur le sol russe. L'Ukraine et l'OTAN doivent se retrouver dans 3 jours à Bruxelles pour évoquer la situation. Kiev dit attendre des décisions concrètes de ses alliés.
Pas de répit non plus dans la guerre entre Israël et le Hezbollah. Plus de 50 personnes tuées au Liban ce samedi. Les frappes de l'État hébreu qui ont commencé avant l'aube, notamment à Beyrouth, visées en son cœur et sur sa banlieue sud. À Gaza, des sources médicales font état de 120 Palestiniens tués ces dernières 48 heures. Les hôpitaux devraient cesser ou réduire leurs activités d'ici la fin du week-end. La faute à un manque de carburant dont l'acheminement est bloqué par Israël. En France, manifestantes et manifestants ont battu le pavé de plusieurs grandes villes ce samedi. Mobilisation générale contre les féminicides, les violences sexuelles et les violences de genre. Une 60aine de manifestations dans tout l'Hexagone et en Outre-mer à l'appel d'organisations féministes, syndicats et personnalités. À Paris, plus de 80 000 personnes ont défilé selon les organisateurs. Objectif, exiger une politique publique efficace pour lutter contre ces violences, cristallisées par l'affaire Gisèle Pelicot, violée par des dizaines d'hommes alors qu'elle était sous l'emprise chimique. Amélie Beaucourt était dans le cortège parisien pour RFI.
Je sais pas combien on est, mais ça fait tellement du bien, quoi. Vraiment, c'est tellement important.
C'est la première fois que Solène vient à Paris pour une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Le cortège, immense, n'en finit plus de défiler devant ses yeux. Toutes les associations féministes, même celles qui ne sont pas sur la même ligne d'ordinaire, sont de la partie. Pour son amie Gabrielle, qui l'accompagne, c'est grâce au procès des violeurs de Gisèle Pelicot.
Dans ce tribunal, il y a la démonstration de tout ce qu'on peut vivre individuellement dans les violences sexistes et sexuelles, le déni déni, la culpabilité. Et je pense que c'est un sentiment de colère générale qui a mobilisé autour de ce procès.
La revendication première de cette mobilisation nationale, une loi cadre intégrale pour une politique publique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pour Zoé, ça veut dire donner les bons outils aux bonnes personnes.
Former les magistrats, former les policiers. Je pense que la loi est bien faite, je pense qu'il y a suffisamment de choses dans le code pénal. Mais je pense que c'est maintenant une question de changement des mentalités, de formation et de moyens mis contre les violences faites aux femmes.
Des moyens insuffisants pour le moment. 12 millions d'euros sont alloués chaque année à ce dossier. Les associations signataires de la loi cadre estiment qu'il en faudrait plus de 2 milliards.
Un reportage d'Amélie Beaucourt dans le cortège parisien contre les féminicides et les violences sexuelles. RFI à Bamako, il est 2h06. Au Mali, la chaîne de télévision privée Joliba TV, suspendue par la haute cour de la communication, la haute autorité de la communication, excusez-moi, la mesure sera effective à partir de mardi. Une sanction qui intervient après une plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso contre Joliba TV. Lors d'un débat télévisé, Issa Kaounjim, figure politique malienne, avait tenu des propos jugés gravissimes par la junte au pouvoir à Ouagadougou. Depuis, Issa Kaounjim a été placé sous mandat de dépôt à Bamako et Joliba TV risque donc la fermeture. Je vous propose d'écouter Noël Yao, président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Il demande aux autorités de transition malienne de revenir sur cette décision qui, selon lui, compromet le droit à l'information des citoyens maliens. Il s'inquiète également du climat de répression de la presse dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Noël Yao.
La presse, les journalistes sont régulièrement et violemment pris à partie. Donc, il y a cette tendance à une internalisation de la répression contre les journalistes et contre la presse. Peut-être que cela fait partie de leur stratégie de mettre au silence toute voix discordante qui ne vont pas dans le sens de leur agenda ou de leur calendrier.
Comment on travaille dans ce genre de conditions? Comment on peut faire son métier finalement?
Il y en a que nous avons reçus à l'étranger qui ont dû prendre la peau de l'escampette, qui ont dû fuir leur pays parce que menacés d'arrestation, c'est vraiment très difficile. Et l'UJPLA demande aux autorités de ces pays-là d'arrêter de vouloir la museler, de vouloir la brigader, car cela ne va pas dans le sens des engagements pris devant leur propre peuple et des engagements internationaux qui garantissent la liberté d'expression, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes.
Un propos recueilli par Victor Moria. L'info sur le continent, c'est aussi l'ambassadeur de l'UE au Niger rappelé à Bruxelles. Décision suite à la remise en cause par Niamey de l'aide humanitaire européenne après les graves inondations dans le pays. Une aide redistribuée à des ONG sans consultation des autorités nigériennes, dit Niamey. Les relations diplomatiques entre la junte et les Européens, notamment la France, sont quasiment rompues, et ce depuis l'arrivée au pouvoir des généraux en juillet 2023. Cette interrogation à présent. La capitale de l'Iran, c'est Téhéran, mais pour combien de temps? À l'image de l'Indonésie, qui a changé de capitale en août dernier, le président iranien l'envisage également. Massoud Pezeshkian lance une étude pour délocaliser les institutions de la République islamique, peut-être vers le sud de l'Iran, le long du golfe Persique, selon certains médias. En tout cas, les raisons de ce projet ne manquent pas, Théo Renaudon.
Téhéran, 15 millions d'habitants, risque tous les jours un tremblement de terre, explique l'urbaniste franco-iranien Makan Rafadjou.
Téhéran est assis sur une multiplicité de failles sismiques extrêmement importantes, à proximité d'un volcan qui peut être en activité avec une éruption possible, etc.
Risque naturel présent depuis toujours, mais la croissance de la ville ces dernières années rend la vie de plus en plus difficile.
Ce n'est pas que la croissance endogène, il y a aussi une attractivité extrêmement forte de Téhéran par rapport à tout le reste d'Iran. Bon, il vient pour des raisons économiques, pour trouver des emplois, et puis il y a aussi un phénomène de réfugiés afghans qui s'est aggravé ces derniers temps, etc.
Problème d'embouteillage aussi et difficultés sanitaires, note Makan Rafadjou.
Par la pollution, mais aussi un problème extrêmement important d'égout. Il n'y a pas vraiment un réseau d'égout à Téhéran, mais ceci étant, le déplacement de la capitale n'est dans un premier temps que déplacement des institutions. Donc ça ne met pas véritablement la population à l'abri.
Mais les déménagements de capitale dans les villes nouvelles sont souvent des échecs.
C'est Brasilia par rapport à Rio de Janeiro, c'est Islamabad par rapport à Karachi.
Ce qui risque, selon l'urbaniste, de créer des institutions déconnectées de la plus grande ville du pays.
Et puis en Ligue 1 de football, Lyon et Reims se neutralisent un partout dans le match du samedi soir. Plus tôt dans la journée, les Marseillais ont repris des couleurs 3-1 contre les